cœur d'une des zones les plus reculées du monde connu. Nous nous trouvons sous les vents de l'Alaska, là où la nature est reine, et où un homme seul semble la diriger du bout des doigts. Depuis 13 ans, Timothy Treadwell, treille militaire et caméra à la main, s'enfonce dans ses plaines et ses forêts pour y filmer au plus près le roi des animaux, le grizzly. L'automne s'annonce et le retour à la civilisation avec lui. Dans le ciel, la carlingue de l'avion de Willie Fulton fend la tranquillité et la torpeur qui règne. Tous les ans, la routine est immuable. Fulton dépose Treadwell au début du printemps, au moment où les premiers bourgeons s'éveillent et s'étirent pour le récupérer aux premières lueurs jaunâtres de l'automne. Et ce jour est arrivé. Derrière les commandes de son hydravion rouge et jaune, Willie, casque sur les oreilles, se réjouit de récupérer celui qui est depuis longtemps devenu un ami. Cette année, il l'a déposé avec sa petite copine, Amy. Elle a dû, elle aussi, vivre bon nombre d'aventures en l'espace de quelques mois. Pourtant, à l'approche de la baie, Willie est assailli par l'un de ses pressentiments qui colle à la peau. Tiens, pas de matériel sur la berge. Pas de présence humaine au bord de l'eau. Fulton doit vite se poser parce qu'il s'est passé quelque chose. Nous sommes le 6 octobre 2003. Il est 11h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Plongé par l'angoisse de ne pas voir son ami approcher de la berge, le pilote se pose aux abords du lac. Le dernier passage d'été des saumons vient d'avoir lieu. La crique, engoncée au milieu d'une végétation luxuriante et reposante, semble aussi paisible que de coutume. Et c'est tout le problème. En déposant Timothy et Amy, Willie avait été clair. Le 6 octobre au matin, il serait temps de rentrer. Rien de spécial pour Treadwell, qui appliquait à la lettre cette routine depuis plus de 10 ans. Cherchant à se rassurer comme il le peut, Willie Fulton imagine alors que le matériel doit être caché dans les herbes hautes un peu plus loin et que le couple a dû faire quelques ultimes prises avant de plier bagages pour de bon. Après tout, c'est pas la première fois que Treadwell se laisse distraire par un bébé ours ou une autre merveille de la nature qui surgirait devant l'objectif de sa caméra. Et puis, le brouillard automnal est arrivé. Il perturbe la vision de Willie. Alors qu'il s'apprête à descendre de son engin, la pluie et le vent s'en mêlent. Il n'y a peut-être rien d'alarmant. Minutieusement, le pilote inspecte la berge à la recherche d'un sac, d'une trace, d'un passage récent d'Amy ou Timothy. Tout ce qu'il trouve, c'est le néant. Une boule au fond de la gorge, un frémissement de ses longues moustaches, le poids du silence. Bon nombre d'éléments semblent indiquer au pilote de l'hydravion que la situation est on ne peut plus anormale. Comme poussé par l'urgence et l'angoisse procurée par cette nature au cœur de laquelle rien ne se manifeste d'autre qu'un long et pesant silence, Willie, du fond de ses tripes, commence à hurler. « Tim ! Amy ! » Les clapotis de l'eau provoqués par la pluie incessante, le mouvement agonisant des pales de l'hydravion, le souffle du vent sur l'herbe. Rien d'autre. Le pilote recommence, de plus en plus mouillé et ballotté par la météo qui ne cesse d'empirer. Mais toujours rien. Cette fois, Fulton commence sérieusement à se faire du mort. Il ne s'est pas éloigné de la berge jusqu'à maintenant, mais l'urgence le décide à s'enfoncer un peu. Les buissons, les arbres, les haies, tout y passe. En vain. Une troisième fois, le pilote s'égosille, se tournant vers la crique, comme pour se servir d'une caisse de résonance. « Timmy ! Amy ! Mais où êtes-vous ?» Mais pas de réponse. Distinctement, le pilote observe un mouvement dans la colline. Près de l'endroit où, dans ce qu'il appelle familièrement le labyrinthe, Timothy a pris l'habitude d'installer son camp. D'un coup, la pression et la boule au fond de son estomac quittent Fulton, comme par magie. Les amoureux ne l'ont pas entendu, et voilà qu'ils arrivent. Porté par la joie de les retrouver, Willie prend son courage à deux mains et décide de monter à leur rencontre. Après tout, revoir la zone du camp lui ferait plaisir. et les aventuriers auront sans doute besoin d'un coup de main pour descendre toutes leurs affaires. Poussé dans le dos par le vent qui s'infiltre, Fulton s'enfonce dans la forêt. Le brouillard qui l'entoure devrait appeler à la prudence, mais il n'en est rien. Le sentier touffu qui mène au camp est à peine praticable. Et puis il y a autre chose. Le sentiment bizarre qu'il avait sur la berge revient se loger au cœur de sa poitrine, désormais couplé avec la sensation d'être observé. Voilà que Willy se trouve aux trois quarts du chemin. Le camp de base est tout proche. Pourtant, plus il appelle ses amis, plus le silence autour de lui se fait assourdissant. Alors, comme animé par un instinct de survie et une pression irrationnelle et dévastatrice, le pilote arrête de gravir le sentier. Il se décide à retourner vers l'avion et à les attendre là, en sécurité, auprès de sa carlingue froide. Bientôt, il détale, animé par cette peur bleue qui ne le quitte plus. Il trébuche plusieurs fois, se redresse, accélère la cadence. L'oppression qui le guette ne cesse de se faire chaque seconde un peu plus pressante. Ce sont les abysses qui se tiennent là, derrière. Par malchance, ses amis sont peut-être tombés dedans. Willy tente de se reprendre, de rationaliser ses pensées, mais la terreur le gagne dans tous ses pores. Soudain, une respiration d'angoisse. Baignant dans la brume, son hydravion se distingue là, au bout du chemin touffu. Voilà qu'enfin il retrouve un semblant de réalité. À grandes enjambées, Willy Fulton gagne la lisière de la forêt. Il s'apprête à mettre le pied sur la berge lorsque derrière lui, une branche craque. Il ne se retourne pas. Voilà qu'une deuxième, plus grosse, vient de se rompre tout près. Le pilote n'a d'autre choix que de se retourner. Le bruit sourd provient d'une zone très dense, se trouvant sur sa droite, en limite de forêt. Dans un premier temps, ses yeux, qui doivent s'habituer à la pénombre, ne distinguent rien d'autre que les troncs couverts de feuilles. Et puis, soudain, une forme dans les fourrés, discrète, sournoise. Un ours, gigantesque, la tête baissée, la bête s'avance vers lui. La gueule menaçante, de larges cicatrices tranchant son poil, l'animal a l'air de vouloir en découdre. Willy n'a plus qu'une solution, repartir, et vite. Détachant l'avion aussi vite qu'il le peut, regagnant sa cabine, le pilote allume les moteurs de l'engin sans se faire prier un seul instant. Mais Fulton ne veut pas rentrer chez lui, non pas sans ses amis qui doivent l'attendre, c'est certain. Le pilote se décide à survoler le camp afin de tenter de percevoir quelque chose, loin du sentier autour duquel rôde la bête féroce. Notre histoire commence bien des années plus tôt. Nous sommes à l'université de Bradley, à la sortie d'une séance d'entraînement en natation. Timothy Treadwell est un jeune homme bien dans sa peau. Bon élève depuis toujours, il a grandi dans une famille qui l'a choyé. Excellent sportif. Il a obtenu une bourse pour ses capacités en natation et sa carrière semble des plus prometteuses. Ou plutôt, semblait. Timothy n'a pas nagé ce soir. Il s'est blessé la veille. Un sale truc qui va le tenir éloigné des bassins pendant des mois. Heureusement, il peut compter sur des amis fidèles qu'il invite à des fêtes. Depuis la veille, le jeune homme ne cesse de noyer son chagrin dans la boisson. Déjà, il s'enfonce. La lente descente aux enfers qu'il subit va le conduire dans les plus sombres profondeurs de l'âme humaine. Sans échappatoire, Timothy va perdre pied totalement. La destinée dont je vous parle aujourd'hui est absolument ahurissante. C'est celle d'un homme qui pense pouvoir vivre parmi les animaux les plus sauvages du monde. Il va même leur donner un nom. Ce sont des grizzlies ? Peu importe au fond. L'objectif de Timothy Treadwell est clair : devenir l'un d'eux. Pour lui, tout commence en Floride, auprès d'une famille aimante. Il est né à Rhode Island, a 4 frères et sœurs. La famille n'est pas malheureuse. Les parents sont des symboles de cette working class américaine, celle aux maisons blanches et aux porches décorées pour Noël. Timothy connaît donc une enfance classique, heureuse. Ses parents relèvent qu'il a toujours aimé avoir des animaux de compagnie. En grandissant, il affectionne les ours en peluche qu'il collectionne. Il fait de la natation au lycée, obtient une bourse et part à l'université de Bradley. C'est là que les choses empirent et qu'il rencontre l'alcool. Et puis, c'est la chute. C'est l'environnement même dans lequel il a grandi qui le fait fuir. Alors qu'il a 20 ans, Tim part pour la Californie, bien loin de sa famille et de ses repères. Il devient vendeur dans une boutique et tente de se défaire de ses addictions. Il veut se lancer dans une carrière de comédien. Treadwell est un nom d'emprunt qu'il arbore à compter de cette période. Le jeune homme fait quelques émissions de télé, il auditionne pour un rôle dans Cheers, ne l'obtient pas et se perd inexorablement. L'alcool et la drogue, dans un mélange macabre, manquent de lui coûter la vie après une overdose. C'est là que naît son besoin irrépressible de s'évader de ce quotidien qui lui coûte. Tim se détache totalement de sa vie d'avant, comme si voir la mort en face l'avait changé à tout jamais. Il se réinvente une vie, annonce aux personnes qu'il rencontre qu'il vient d'Australie, près de Brisbane, et qu'il est orphelin. Il prend un accent douteux, joue un rôle. Est-ce l'alcool qui le dérègle? Ouais, peut-être, oui. Le plus fou, à ce moment-là, est le fait qu'il ne désire pas se sortir de ses troubles mentaux, de plus en plus pressants, non. Non, ce qu'il souhaite à ce moment de sa vie, c'est épouser ce côté obscur, l'accepter totalement. Sa consommation de drogue le pousse dans les bras d'organisations criminelles. Timothy aurait pu, dû peut-être, finir en prison. Au lieu de ça, il va changer totalement de baquet, encore une fois. Un jour, Timothy tombe sur un reportage qui parle de l'Alaska et des ours qui y vivent. De la chasse à cet animal et du besoin de les protéger. Son sang ne fait qu'un tour. Il plaque tout, arrête l'alcool et la drogue. Ne compte plus dans son esprit, en un claquement de doigts, qu'une seule chose. Les ours. Dans ce projet fou, Timothy peut compter sur plusieurs soutiens. Willie Fulton est l'un d'entre eux. Le pilote le conduit dans cette zone qui deviendra son véritable chez-lui. Une immense plaine, qu'il nomme dans ses vidéos le sanctuaire, puis quelques mois aux abords de la forêt dense, le labyrinthe. Tout est codé dans ce monde qui semble lui appartenir, mais qui, disons-le d'emblée, n'est pas circulé. Cette zone est protégée par le statut de réserve fédérale, mais cela n'entre pas dans le prisme de Timothy qui se persuade très rapidement d'être le protecteur de ce monde éloigné de la folie des hommes. Dès son premier retour d'expédition, au tout début des années 1990, Tim se dissocie totalement de la réalité, qu'il retrouve au contact de son prochain. Pour lui, c'est clair, le monde des hommes est devenu étranger à ce qu'il est et à ce qu'il souhaite. Il accepte de s'éloigner de ce qu'il a connu, de ce qui l'a fait souffrir. Il trouve en Alaska un refuge où il s'apaise, persuadé d'être à l'abri. L'été 2000, en Alaska. Une sécheresse dingue, inhabituelle, vient de s'abattre sur tout le continent américain. Depuis 10 ans, Timothy Treadwell parcourt la terre des ours. Et voilà quelques années maintenant qu'il prend avec lui, tout le long de son périple, une caméra. C'est un homme des plus perturbés que nous retrouvons. Face à l'intransigeance de la nature, il est comme désarmé. Dans la baie, le niveau de l'eau a baissé de manière drastique. Il n'y a plus de saumon. Les ours, hagards, traversent les plaines et les forêts comme des fantômes en quête de nourriture. Et Tim assiste au massacre, sans pouvoir agir. Tout bascule lorsqu'il retrouve un jour au bord de la rivière un crâne décharné, celui d'une petite ours, qui n'a connu que quelques semaines de vie. Devant l'incapacité de se nourrir, les bêtes en viennent à des extrémités sauvages, manger les plus faibles. Longtemps, Tim reste caméra à la main face à ce crâne qu'il regarde avec des yeux impuissants. L'horreur dont est capable la nature le perturbe au plus haut point. Il est un aventurier quelque peu naïf qui se refuse parfois à voir l'évidence. Des prédateurs pourraient tuer ses amis renards ou oursons. Impossible. Et pourtant... L'été 2000, plus encore que tous les autres, Tim s'approche des ours, près, très près. Tout semble le pousser de manière inexorable à franchir une frontière que personne avant lui n'a jamais traversée. L'homme a conscience que ce qu'il fait est dangereux, mais il se sent poussé par une incomparable force divine. Tim est en mission. Cela se ressent dans chacune de ses prises de parole. Lorsque la pluie se refuse à tomber en 2000, il évoque face caméra la responsabilité de Dieu. Il dit « nous » lorsqu'il évoque la fin des ours. Tim s'enfonce dans cette réalité alternative dans laquelle il se sent bien. Jour après jour, au mois de septembre, il fait le point sur la situation des pluies jusqu'à la délivrance. La pluie revient et donc pour Tim, son expédition en 2000 est un succès, malgré le fait que sa tente s'effondre sous le poids de l'orage. Il aurait pu mourir sous la tempête, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que les ours vont pouvoir retrouver des poissons. Voilà le super pouvoir que nous procurent les films réalisés par Tim. Ils nous permettent d'assister au drame qui se jouait déjà, latent, avant l'arrivée de la caméra. La paranoïa de Timothy se décline en plusieurs phases, et ses ennemis sont nombreux. Il y a d'abord Dieu, lorsque la pluie refuse de tomber, ou que ses amis meurent. Il y a ensuite les hommes, qui cherchent parfois à le retrouver. Mais ce qui le révolte le plus sont les braconniers, même si les études tendent à montrer qu'en Alaska, cette pratique illégale est au pire rare, au mieux totalement insignifiante. Il n'y a pas d'acte de braconnage dans la population d'ours que Tim cherche à protéger. Et pour cause, l'économie de la chasse à l'ours est florissante, mais elle est surtout très encadrée. Ce qui est un fait, c'est qu'avec ses films, Tim gagne en popularité, ce qu'il déteste. Le contact avec les intrus, peu importe leur intention, le pousse chaque fois dans les bras de la parano. L'arrivée de sa caméra dans les expéditions, si elle permet d'assister à la psychose croissante de notre homme, est aussi un véritable tournant dans la compréhension de son œuvre. Les images qu'il tourne montrent un véritable sens de la réalisation, une volonté de construire un récit. Au-delà de ce premier constat, c'est le véritable Timothy qui se livre devant l'écran, sans même le vouloir parfois. La nature, magnifique et sauvage, est bien plus qu'une héroïne de second plan. Elle et lui ne font qu'un. L'aventurier transmet un message continuel. Il livre ses impressions les plus fortes, les plus secrètes. Puis un jour, il déclare « Avant, je n'avais pas de vie. Maintenant, j'ai une vie. » La phrase est percutante, mais reflète un état d'esprit des plus particuliers. Le gentil guerrier, comme il aime à s'appeler, est un amas de contradictions et de souffrances. Ses périodes d'exil sont une échappatoire. Lorsqu'il rentre au milieu de la civilisation, c'est pour mieux s'occuper de sa fondation, Grizzly People, qu'il gère avec une ex-petite amie devenue sa confidente, Jewel Palovac. Avec elle, Tim prépare ses prochaines expéditions, lance des campagnes de fonds, fait connaître son travail de cinéaste, notamment dans les écoles. Cette solitude qu'il subit au cours de ses exils devient un mantra. Chacun de ses plans témoigne de cette confrontation entre lui seul et le monde. Oui, mais voilà. S'il se plaint régulièrement de ne pas pouvoir se lier sur le long terme avec des femmes, Tim rencontre l'amour avec Amy. Et la jeune femme va pouvoir disposer d'un incroyable passe-droit, celui d'accompagner Tim en Alaska. En 2002 et 2003, de manière épisodique pour le premier, puis plus suivie pour le deuxième, elle fait partie intégrante de l'aventure. Pour autant, elle est totalement transparente à l'écran. Mais pourquoi, me direz-vous ? Timothy Treadwell, au cœur de la Terre des Ours, est un personnage. Et sa première caractéristique, incontestablement, est d'être solitaire. rendez-vous compte, sur la totalité des enregistrements de l'aventurier. Ami est vu deux fois seulement. Jamais on ne peut voir son visage. Pourtant, il faut lui rendre la justice de sa présence. Elle est bien là, dissimulée derrière l'omniprésence de Tim. Comble du comble, il semble qu'elle craignait les ours. C'est donc l'amour qui la lie à Treadwell et non ces animaux dont elle s'approche au plus près pendant des mois. En 2003, alors que s'engage l'expédition qu'il mène avec Amy, Timothy est de plus en plus révolté. Son ennemi privilégié devient l'administration des parcs nationaux, celle en charge de la large zone qu'il couvre chaque année. Les rapports se tendent, alors même que les premières années, tout était fait pour que Tim puisse opérer en toute sécurité. Mais l'homme ne cesse de franchir des lignes rouges. Il ne respecte pas les règles imposées. S'approcher à moins de 100 mètres des ours est interdit par la loi. Eh bien, il s'en fiche et va jusqu'à en caresser parfois, au péril flagrant de sa vie. Mais plus encore que les parcs nationaux, c'est la civilisation qu'il exècre au plus haut point. Il se bat contre les hommes, rien d'autre. Il est une espèce de messie dans ses prises de parole. Il perd pied. La pauvre Amy ne peut pas y faire grand-chose. Elle accepte de le suivre, peut-être aveuglée par la confiance qu'il dégage. Mais comment tout cela va-t-il se terminer? Mal, assurément. Nous retrouvons le 6 octobre 2003, en fin de matinée. Willie Fulton, dans son cockpit,